Vous êtes à l'écoute de l'heure balado sur les ondes de CFAQ 88.3 et pour la dernière fois, j'ai avec moi en studio Jean-François Vachon, qui est le réalisateur de la série balado S'accorder, qui est un balado documentaire s'intéressant à l'impact des accorderies. C'est bien de rappeler que si vous arrivez à cet épisode, vous avez manqué un bon bout qu'on va vous résumer là, dans quelques instants pour que l'écoute soit un peu plus facile. Mais sinon, tous les épisodes sont disponibles sur notre site web et sur Spotify et probablement toutes les autres plateformes d'écoute de podcasts que vous préférez. Sinon, ben Jean-François, comment ça va?
Très bien, très bien.
Ouais, ouais. Est-ce que tu veux nous faire un petit retour sur qu'est-ce qu'on a vu à présent dans ta série de balado?
Oui, ben c'est ça. Pour résumer rapidement, ben c'est ça, c'est 5 épisodes. Le premier épisode, ben, on découvre un peu c'est quoi les accorderies. Après ça, dans l'épisode 2, 3 et 4... on explore un peu les retombées des accorderies sur les personnes aînées, plus en particulier. On utilise ça un peu comme un exemple et dans cette exploration-là, ben, on explore à Sherbrooke, on va à Shawinigan, on va à Longueuil, il y a un petit aspect road trip au balado aussi là, qui s'insère. Et là, on arrive à l'épisode 5, qui est comme l'épisode final de la série, où est-ce que là, on sort un peu des aînés. Et on s'intéresse plus largement aux impacts généraux de l'accorderie sur d'autres gens là, aussi. Là.
OK, oui. On a parlé beaucoup là, dans nos autres intros des impacts sociaux, sociaux, bref, ouais. C'est du projet et des accorderies. J'aimerais ça qu'on parle, là, j'imagine, là, tu enregistres énormément sur le terrain des entrevues que... À un certain moment, tu le mets même dans l'épisode. Tu dis, on va enregistrer à peu près une heure, je vais sûrement utiliser à environ 6 minutes. Puis je pense que c'était même peut-être moins que ça. Ça vient avec des choix. T'sais, ça vient avec énormément de décisions, j'imagine. Tous tes épisodes sont à peu près 43 minutes. Ouais. Mettons entre 40 et 45. D'où vient ce nombre, ben, ce choix, que ce soit 40 à 45, parce que les balados, ça peut être très variable en termes de temps. Donc, pourquoi 40 minutes environ et comment on fait des choix quand on a, tu sais, combien t'en as eu là, d'heures, mettons, d'enregistrement sur le terrain là?
J'ai pas compté les heures, mais c'est...
Ça, c'est bon. C'est bon aussi.
Mais c'est à peu près 5 journées d'enregistrement, tu sais, réparties. Ben, 5 journées en tout, là. C'est sûr, c'est plus que 5 journées, mais c'est à peu près une vingaine d'entrevues, des scènes terrain que j'appelle, là. C'est quand je vais à des endroits, là, 5-6 scènes comme ça. C'est beaucoup d'heures, en fait.
Des messages sur ton cellulaire que t'enregistres. Là,
ouais, t'sais. ouais, ça aussi. mais c'est ça aussi beaucoup que j'adore en balado, c'est que ça, pour ceux qui en font, là, c'est essentiel de se rappeler de tout ça, c'est que tout peut servir, surtout en documentaire, parce que des fois, tu sais, quand tu vas rencontrer quelqu'un, j'ai gardé plein de bouts que j'installe mon micro, là. Mais tu sais, le fait de mettre ça, qu'on entend le micro s'installer, ça a l'air encore plus vrai, tu sais.
Ben oui, des fois, c'est ça, tu dis, ah, j'installe le stock. Mais t'es déjà en train d'enregistrer, c'était-tu 2 enregistreurs ou c'est-tu des mensonges?
Non, ben des fois, c'est parce que j'utilise un Zoom H6, là, oui, t'as un micro au bout, puis tu sais, tu peux comme laisser le micro rouler pendant que tu plugues tes autres fils après, mais activer tes autres tracks, fait que là, je le fais de même. Des fois, j'ai un preneur de son. C'est sûr que des fois, il y a des petits... Tu sais, ça reste un produit artistique, là. Ça se peut, des fois, je vais ajouter des effets, je vais ajouter des trucs pour enjoliver un peu, mais c'est ça, c'est en grande partie tout vrai, là.
T'as définitivement le style un peu raw, là, de comme on entend la pièce, puis tu veux nous plonger dans l'univers. Sinon, si on vient peut-être plus au choix, est-ce que tu le sais quand ça se passe, que ça fait la cote, ou c'est une fois que tu es derrière ton ordi?
Il y a des moments que je le sais pertinemment que ça va être vraiment dans le balado. Comme les madames là, dans l'épisode 2, là, on en parlait, là, ce qu'ils m'ont dit, je disais, mon Dieu, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont dit, là, c'est sûr, je vais mettre ça quelque part. Des fois, je le sais sur le moment. D'autres fois, je le découvre en écoutant. Puis d'autres fois, il y a certains bouts que je vais mettre qui sont pas, à première vue, qui n'ont pas l'air d'être super incontournables, que je vais les mettre parce que finalement, ça comble super bien un manque que j'avais. Fait que c'est ça que j'adore du montage documentaire, c'est que c'est comme tu deviens créatif avec les contraintes que tu as, puis ce qui sort en bout de ligne, c'est vraiment, c'est pas toujours comment que tu as planifié. Puis c'est, faut vraiment que tu sois ouvert d'esprit pour placer les choses d'une façon, puis des fois complètement déplacer une scène complète dans un autre épisode, puis de jouer avec ça.
Ouais, est-ce que tu as dans ce balado-là, un souci de comment on peut dire ça, de succession des événements dans le temps, là, tu sais, y a-tu comme où est-ce que tu t'es donné une liberté d'échanger le passé et le futur, là, je sais pas comment le dire, là.
Ça c'est un secret de documentariste, là.
Ah ouais, okay.
C'est sûr que j'ai toujours le souci que ça soit la même temporalité, okay, que ça s'est passé. Mais c'est sûr, dans un balado comme ça, par exemple, juste les entrevues formelles que j'ai faites avec les gens, avec tout le monde, j'aborde essentiellement tous les sujets, pas dans les vox pop. Mm. Et là, évidemment, je peux pas... Il faut que je spécialise les personnes après. C'est qui a parlé le mieux de tel sujet? Ah, c'est elle. C'est qui a parlé... Ah ouais, okay. Le mieux tel sujet. Fait que là, je fais un choix en fonction de ça. Fait que, tu sais, je prends les meilleurs choix de ce que tout le monde m'a dit. Fait que ça, déjà, ça l'influence. Après ça, pour les scènes terrain, quand je vois un tel événement, oui, il y a certains événements que j'ai été enregistrés avant, que je mets après pour que ça aille bien dans l'histoire. Si ça nuit pas au propos, si ça nuit pas, si ça n'a pas l'air vraiment de quelque chose que je trompe complètement les personnes, je le fais pas, tu sais. Mais dans le cas que ça sert l'histoire, je l'utilise. Puis ça, c'est sûr que dans tous les documentaires, ces mêmes vidéos, c'est ça, c'est les gens font ça, on essaye... J'ai déjà vu des fois des documentaristes, il y a une scène qui a été filmée, ça c'est en vidéo, une scène qui a été filmée l'hiver, mais là, non, l'été, puis là, on met que c'est l'hiver, que ça a été filmé, puis là, on met la fenêtre, on met du blanc dans la fenêtre, parce que, tu sais, il y a ça... C'est sûr que des fois, parce que c'est là que, justement, le documentaire est une histoire, c'est la réalité, mais ça reste que c'est une œuvre artistique aussi, donc il y a ces jeux-là, puis... C'est super intéressant de jouer avec ces variables-là parce que c'est là, des fois, tu réussis à avoir vraiment un super bon punch. C'est-à-dire, cette scène-là, elle a sa place à cet endroit-là. Mm. C'est là qu'elle va avoir le plus de valeur.
Ouais.
Puis tout le long qu'on fait ça, ben c'est d'éviter des redondances.
Ouais,
si tu mets 3-4 personnes qui te disent la même affaire ou 3-4 scènes pareilles, ben là, tu perds ton monde encore une fois. Là,
c'est intéressant de plonger dans le monde derrière les caméras et le micro dans ce cas-ci.
Ouais.
Sinon, avant de présenter l'épisode 5, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, tu sais, de tes projets passés et même tes projets futurs.
Oui, ben c'est ça. Au niveau du documentaire vidéo, j'ai plusieurs projets. Notre plus gros projet, moi et mon collègue Jean-Sébastien Dussil, on a fait un film sur les prestataires de l'aide sociale avec Radio-Canada, là, qui s'appelle Le Bien-être, là, qu'on a suivi 4 personnes sur l'aide sociale pendant un an, ce qu'ils vivent, tout ça, pour briser les préjugés. Je fais plusieurs projets avec des organismes communautaires. Là, en ce moment, je travaille sur un autre balado documentaire avec une ressource alternative en santé mentale à Richemont. C'est encore très embryonnaire, mais le financement a été confirmé, puis on commence à faire ça. Là, on va vraiment aller dans des ressources alternatives en santé mentale pour parler de l'approche, aller dans des événements, parler aux gens, puis c'est vraiment très intéressant. Puis j'ai d'autres projets aussi qui s'en viennent là, au niveau du balado documentaire, en vidéo aussi. Là. Mais on dirait que le sujet de la santé mentale s'impose aussi. Là.
Ah ouais, okay.
C'est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. Là. Ça reste dans l'univers social.
Ouais.
On fait un documentaire vidéo en lien avec ça aussi. Puis j'ai un projet de balado plus personnel que j'aimerais réaliser, là, très personnel, là, dans le sens que moi, ma mère a vécu des enjeux de santé mentale, puis je veux un petit peu décéder aujourd'hui, puis je veux un peu explorer ça dans le cadre d'un documentaire audio. Ça, c'est un projet que je veux faire aussi. Ça. C'est un peu ça là, qui s'en vient, là, entre autres, là, si je résume. Là.
Ouais, ben qui sait, tu vas peut-être venir les présenter
encore
une fois avec moi ici.
Ça me ferait plaisir, c'est un bel accueil, en tout cas.
Merci bien. Ouais. Fait que sur ce, veux-tu nous présenter pour une dernière fois ton épisode final de la série Balado?
Oui, l'épisode 5, mais c'est ça, c'est un autre épisode, on se déplace encore. Je me rends à l'Assemblée générale annuelle du réseau Accorderie, qui est un peu l'organisme qui chapeaute toutes les accorderies au Québec. Je me rends là-bas pour parler, parce que toutes les accorderies du Québec vont à cette assemblée-là, incluant ceux qui sont plus loin, comme celle dans la Matapédia, celle de Trois... pas Trois-Rivières, mais dans d'autres régions du Québec. Fait que là, ça me permet de leur parler. Fait que là, en vox pop, j'ai eu la chance de parler à plein de gens de d'autres accorderies que j'aurais pas pu aller visiter parce que ça aurait été trop long. Puis ma question, ce qui guide l'épisode, ben, c'est vraiment de regarder les impacts des accorderies au sens plus large. On dépasse les personnes aînées, c'est quoi l'impact sur les personnes à faible revenu, sur les personnes en situation de handicap, sur les personnes immigrantes, on va vraiment plus loin. Puis aussi, en même temps, je demande aux personnes qui sont là à l'Assemblée générale annuelle, c'est quoi l'enjeu du moment, c'est quoi votre principal défi là, aujourd'hui? Je leur pose cette question-là, je ne dirai pas leur réponse pour que vous puissiez l'écouter, mais c'est ça, c'est souvent le même enjeu qui ressort, puis on explore ça. Puis évidemment, c'est l'épisode final, là, au sens que j'essaie un peu de boucler la boucle de tous les autres épisodes, puis il y a des scènes, si je peux dire comme ça, qui sont en lien avec ça. Puis je clôt mon enquête avec ça. Puis c'est ça. C'est un épisode final. Puis c'est le plus long aussi de tous les épisodes. Parce que c'est ça qui arrive aussi des fois, c'est que là, c'est l'épisode 5. Puis là, ah, ça, j'ai pas mis ça. Mais alors, je veux vraiment le mettre. Là. Fait que là,
il est un peu plus long. C'était. Moi, tu t'avais limité en termes d'épisodes. Fait que tu voulais pas en faire un sixième, par exemple. Ou...
Non, c'était. Ben, c'est ça. C'est au niveau du temps que j'avais. Puis au niveau du financement, c'était 5 épisodes. En faire plus, je pense pas que ça aurait été possible. Il y aurait peut-être eu des redondances où il aurait fallu que je réfléchisse plus longtemps. C'est vrai qu'il y a des balados, là, j'en écoute un en ce moment, là, c'est 10 épisodes, puis il y a des épisodes là-dedans qui sont une heure. Là.
OK, c'est, ouais, mais... c'est...
c'est très bon, là, ça s'appelle Simmons City, là, en tout cas, j'aime bien. Puis c'est ça, mais eux autres, ils ont enregistré pendant 3 ans, là, tu sais, fait que c'est sûr, ils ont du contenu à passer. Là, c'était correct, là, 5. Là,
ouais, c'est bon. Ouais. Ben merci, Jean-François, fait que je rappelle là, que si jamais vous pouvez pas terminer l'épisode ou si vous voulez aller voir les précédents, ben c'est sur Spotify ou sur notre site web cfac.ca. Donc, merci beaucoup et bon dernier épisode.
Plaisir. La majeure partie de cet épisode a été enregistrée en décembre 2023. Depuis ce temps-là, beaucoup de choses se sont passées et c'est ce qu'on va découvrir.
Fait que ça roule, on est en direction de Québec. En fait, c'est où qu'on va?
Ben, l'Assemblée générale de l'annuelle du réseau des accorderies. Dans le fond, c'est là que les accorderies se rencontrent une fois par année là, pour vraiment déterminer les objectifs de l'année, faire le bilan, tout ça. Puis nous, ça va nous permettre de rencontrer les gens du conseil d'administration de d'autres accorderies au Québec. Évidemment, je n'aurai pas le temps de me rendre dans toutes les villes où il y en a des accorderies. Fait que ça va être l'occasion de parler un petit peu avec eux, d'entendre ce qui se passe pour la prochaine année. Puis je suis bien curieux de savoir là, s'il y a des choses qui vont se discuter là.
Je pensais que c'était juste à Sherbrooke.
Non, vraiment pas. Je ne sais pas
que c'est un réseau. C'est un réseau, c'est quoi? C'est provincial? Il y en a-tu partout au Canada?
Ça a commencé avec l'accorderie de Québec. Puis après ça, je pense que ça a été Trois-Rivières, Montréal. Puis là, Sherbrooke est arrivé. Là, il y en a à Lac-Mégantic. Il y en a une à Shawinigan. Il y en a une à Grimby. Fait qu'il y en a, je te dirais, en tout cas, peut-être je me trompe sur le chiffre, là, mais une dizaine là, au Québec.
OK.
Vous écoutez S'accorder, un balado documentaire où je vais sur le terrain pour découvrir l'impact des accorderies par la voix de ceux qui en font partie. Je pense qu'il était 8h du matin et j'étais sur la route, encore, sur l'autoroute 20 pour être plus précis. Et cette fois-ci, j'étais accompagné de David Elias, un autre collègue qui m'assistait pour le son. Pendant la majorité du chemin, on avait de la jasette.
J'ai eu connaissance pour la première fois cette année de l'accorderie. Je connaissais pas ça.
Après une halte à Laurier Station, la fatigue nous rattrapait. Et c'est normal, on était parti à 5h30 de Sherbrooke.
Fait que là, on arrive à Québec, on pogne le pont.
Ben oui, toi.
David était tellement content qu'on entre dans la ville qu'il a pris le pont en photo. Et de mon côté, revenir à Québec me ramenait toujours dans de vieux souvenirs.
Moi, j'ai habité Québec 9 mois.
OK.
Exactement où est-ce qu'on s'en va. On s'en va sur la rue Saint-Joseph, au cœur de Saint-Roch. Moi, je restais là.
Plus précisément, j'habitais sur la rue Saint-Vallier-Est, au centre-ville de Québec. J'avais quitté Sherbrooke avec deux amis pour changer d'air. On était trois idéalistes et on passait souvent nos après-midi à philosopher et à refaire le monde. On avait déménagé pour entreprendre de nouveaux projets artistiques. On sortait de l'autoroute et on entrait tranquillement dans la basse ville de Québec, dans le quartier Saint-Sauveur, plus précisément.
C'est un vieux bar, une vieille taverne. C'est de l'architecture, toutes les maisons, quand même, ça de coller. Là. C'est un autre monde, quand même. Québec.
C'était effectivement un nouveau monde. Et au début, c'était super. Je me souviens même qu'en bas de chez moi, il y avait eu un événement qui s'appelait « Réclame ta rue ». Des personnes avaient barré les principaux artères du coin en installant des divans, des plantes et toutes sortes de choses sur l'asphalte. C'était mémorable. Et j'avais même sorti ma caméra pour immortaliser ça. C'était en 2006. Et cet événement-là, c'était un nid d'idéalistes. Je me sentais chez nous.
Les gens sont plus dans les rues. Des fois, les rues, on dirait qu'elles sont désertes. Aujourd'hui, c'est pas le cas.
Ouais, c'est dodo, boulot,
général. La machine. Mais comment qu'on se fait, d'après toi, la solution pour sortir de ça, mettons, quelqu'un qui...
Faut juste le croire, là. Ouais. Si tu crois que quelque chose, ça va arriver. Faut pas que tu dises, je veux pas ça, je veux pas ci, parce que ça va arriver. Crois au positif, dis oui, je veux ça, puis c'est ça qui va arriver, puis voilà ce qui arrive.
Tranquillement, je sortais de mes souvenirs et on arrivait dans le quartier Saint-Roch. Le paysage m'était encore plus familier.
Hey boy, ils ont tout rénové à la bibliothèque. Mon Dieu.
Je me rappelle que c'était mon lieu refuge dans le temps, parce qu'après 2 mois de lune de miel, les choses se sont corsées. Ma coloc, qui était plus âgée, est décédée subitement. Et de mon côté, disons que les opportunités ne levaient pas autant que prévu. La réalité était dure, et je me souviens que j'allais à l'épicerie du coin et que je comptais mes cents pour m'acheter à manger. C'était pas évident. J'avais plus de réseau social, plus d'argent, plus grand-chose. Au point que je suis revenu à Sherbrooke un peu en catastrophe. Je vous raconte ça aujourd'hui parce que je me disais que l'issue de cette période-là aurait peut-être été différente si j'avais connu l'accorderie qui existait déjà à ce moment-là. Jusqu'ici, je vous ai beaucoup parlé des bienfaits des accorderies sur les personnes aînées. Mais la vérité, c'est qu'elles peuvent aider pas mal de monde, comme l'homme de 26 ans que j'étais. Après presque un an d'enregistrement, je sentais que c'était le temps d'enquêter plus largement sur les impacts des accorderies. Et c'était pour ça que je me rendais à l'Assemblée générale du réseau ce jour-là. On est arrivé sur les lieux plus vite qu'on pensait.
Je ne pensais pas avoir une place juste à côté de même.
T'es en train de dégager l'entrée.
On a sorti notre matériel et on a croisé Nadia, la directrice du réseau accorderie que j'avais rencontrée il y a quelque temps à Montréal.
Salut, moi c'est David.
David, Nadia.
L'Assemblée générale et les bureaux du réseau étaient dans une église, nommée maintenant la Nef, qui était devenue une coopérative de solidarité abritant plusieurs organismes. Quand je suis entré à l'intérieur, j'ai été agréablement surpris. C'était très grand, en bon état, et tout l'aspect architectural et artistique avait été préservé.
Tu sais, moi, c'est David, je suis preneur de son pour le balado. JF s'en vient, là, le maître d'œuvre. Fait que je me demandais si, tu sais, un petit raccoin, juste que je mette mon équipement, tu sais, j'ai des piles, une fois de temps en temps, je vois...
Pendant que David déposait son matériel, j'ai fait le tour un peu. De grandes tables avaient été installées. Et Nadia et Patrice, un autre employé du réseau, s'affairaient à placer les choses pour que les invités manquent de rien.
T'as le café, es-tu prêt? Tu penses qu'on est correct?
J'ai mis de l'eau. Y a-tu d'autres choses à boire, à mettre ou non?
Les gens arrivaient tranquillement. Et avant que Nadia soit trop occupée, j'étais lui parler un peu.
C'est quoi tes attentes pour la journée d'aujourd'hui?
Ben, j'ai pas d'attente. Moi, je suis contente que les gens puissent se voir puis avoir des moments informels. C'est souvent ça qu'ils attendent, en fait, dans ces rencontres-là, d'avoir un moment aussi pour se retrouver. Fait que là, on va faire nos points, tout ça, donner des nouvelles. C'est sûr que quand ils sont dans les accorderies, ils ont moins de compréhension, peut-être, du quotidien, du réseau. Puis là, c'est le moment pour leur dire là, qu'est-ce qu'on fait pour eux toute l'année, etc.
J'avais d'autres questions pour elle, évidemment. Mais elle n'a pas pu me parler plus longtemps. Il y avait tellement à faire. Et c'est pas grave. Parce que quand je me suis retourné, j'ai vu une personne entrer qui pourrait clairement répondre à toutes mes interrogations.
Salut Edith, ça va?
Salut!
Yes.
Vous l'aviez peut-être deviné. C'était Edith, la directrice de l'accorderie de Shawinigan que j'avais visitée cet été et qui était aussi la présidente du réseau accorderie. Même si je l'avais juste vue 2 jours, je sentais qu'on avait déjà un bon lien.
Ah, c'est une vente de doigts, je m'attendais pas de doigts.
Ben oui, on est là, ben c'est ça, on...
C'était super agréable de la revoir. Et évidemment, elle n'était pas descendue seule.
Salut, France, c'est ça?
Salut,
c'est bien ça? Ça va?
Ben oui, ça va,
content, on est content de te revoir.
Bon, hein? C'est ça?
Yes.
Colin!
Finalement, c'est à France à qui j'ai parlé. Je voulais qu'elle me donne des détails sur les retombées des accorderies, mais avant ça, j'avais une autre question.
C'est-tu quelque chose qui se jase plus cette année, tu penses, à l'Assemblée? Il y a comme un enjeu qui ressort ou quelque chose que vous allez plus discuter? Ou...
Oh, si on peut finir par avoir un financement de base, là, c'est ça qui est notre nœud.
Le défi du financement. OK, je dois vous avouer que je voyais la réponse venir. Je ne l'ai pas mentionné encore, mais dans toutes les entrevues que j'avais faites, cet enjeu-là ressortait tout le temps.
Le manque de financement provoque un essoufflement extraordinaire des ressources. T'sais, moi, ça fait 3 ans que je suis là. Ça fait 3 ans. En fait, je suis pas directrice. Moi, je suis une chercheuse d'argent. C'est moi, je me définis.
Chercheuse d'argent. Pour avoir parlé fréquemment à ceux et celles qui dirigent des organismes communautaires, je l'avais entendu souvent, celle-là. La plupart d'entre eux n'ont pas de financement permanent et ils doivent obtenir des subventions par projet pour continuer. C'est très prenant. Mais Marie-France était loin d'être découragée.
Moi, j'ai un accordeur, quand on l'avait inscrit, je me rappellerai toujours, il était dans mon bureau, puis il me fait « Ah, oh, mais, c'est un nouveau monde! »
Ah ouais, OK.
Il était tellement ébahi par tout ce qu'on peut faire là, à travers une accorderie.
Ouais.
Mais en fait, c'est pas un nouveau monde, c'est le retour du monde.
Initial, au début, on
était comme ça, on s'entraidait, puis
on a démontré
qu'une accorderie... Elle a sa place dans la communauté. Si après 20 ans, on est encore debout puis qu'on est 11, bien, quelque part, c'est parce qu'il y a un réel besoin. Puis c'est issu de la communauté. Fait que je pense que ça doit être entendu. Ça doit être entendu au plus haut niveau parce que la communauté, c'est nous autres, c'est le peuple. Là. Puis le peuple a parlé, c'est ça qu'il veut.
En entendant des propos comme ça, dits avec tant de conviction, on voit que la volonté d'améliorer les choses côté financement est ferme chez les accorderies. Et c'est pas uniquement pour aider celles qui existent.
Si on aurait un financement de base, là, parce qu'on a des demandes un peu de partout qui aimeraient ouvrir une accorderie ou même Rimouski, on a même... il veut redevenir une accorderie parce qu'il y avait une accorderie à Rimouski.
J'étais curieux de savoir ce qui s'était passé à Rimouski. Edith m'a donc présenté Dominique.
Bien, c'est un petit peu manque de financement qui a fait en sorte que il y a eu des dettes qui se sont accumulées un petit peu. Manque peut-être d'investissement des membres envers la corderie pour être capable d'aller chercher du financement encore là pareil, puis les échanges aussi.
Okay.
Mais à un moment donné, c'était très, très, très actif parce qu'il n'y avait pas loin de 300 membres quasiment qui étaient inscrits pareil pour la corderie de Rimouski. C'est pour ça que ça nous dit quand même pareil qu'il y a une demande qui est là.
Une communauté de 300 personnes qui disparaît, faute de financement, ça doit faire mal à ceux qui en avaient besoin. Mais en parlant avec les gens présents, j'ai appris que la corderie de la Matapédia, pas très loin, avait pris la gestion des membres orphelins de la corderie de Rimouski pour leur permettre de continuer d'échanger. Et c'est vrai. Édith m'avait aussi dit que des gens travaillaient à la réouvrir.
Si vous voulez la recréer, c'est qu'il doit avoir un besoin. C'est quoi les besoins qu'il y a d'une accorderie à Rimouski? Pourquoi vous voulez le refaire?
Justement, pour que les gens puissent profiter de cet organisme-là d'échange, de services, parce qu'ils ne veulent pas les conditions économiques présentement, c'est de plus en plus difficile. De s'offrir des services, que ce soit récréatifs ou de besoins essentiels, la corderie est capable de combler ça sans avoir à mettre de l'argent dans les poches.
Ouais.
Fait que les ménages, présentement, avec le coût de la vie, regarde, si tu veux avoir quelqu'un pour venir peinturer chez toi, tu veux avoir quelqu'un pour, tu sais, quelqu'un qui a des limitations, pas capable de faire sa pelouse ou quelque chose de même, au lieu de payer quelqu'un, un contracteur, il peut faire appel à la corderie. Puis lui, de son côté, il peut faire, même s'il est limité, il va toujours pouvoir faire de la pâtisserie, des services de lecture ou n'importe quoi qui peut être quand même intéressant. Avec les 1200 services qu'il y a dans la corderie,
ouais,
tout le monde peut trouver son compte là-dedans pour être capable de rendre service ou de recevoir un service.
En près de 2 minutes, Dominique avait répondu à mes 2 questions centrales. C'est quoi les retombées des accorderies et c'est quoi le principal enjeu qui les touche? En disant ça, par contre, je me rendais compte que les 2 sujets étaient liés. Pour que les accorderies obtiennent du financement, il fallait prouver qu'elles étaient nécessaires. J'ai continué de me promener et à un moment donné, je suis tombé sur un groupe d'accordeurs.
De quelle accorderie vous êtes, vous
autres? Matapédia.
Oui. Matapédia, OK. C'est vrai que vous êtes une grosse gang, qu'on m'a dit, une grosse délégation. Que...
Oui, on est 5, là. Bonjour, Nadia.
Comment ça se passe dans votre coin?
Moi, j'ai connu la corderie quand je suis arrivée dans la région d'Amqui l'année passée.
OK.
Puis j'avais besoin de déménager parce que j'avais travaillé dans un camping. Puis le camping fermait à fin de l'été. Fait que le propriétaire m'a aidé à trouver un logement. Il me manquait des bras.
OK.
Fait que en m'inscrivant à la corderie, j'ai pu avoir de l'aide.
Voilà un autre bel exemple d'impact. Et la corderie de la Matapédia était intéressante parce qu'elle desservait une MRC en entier. Je voulais en savoir plus.
Vous êtes combien de membres, à peu près?
Ouf, ça, je ne sais pas. Ça, c'est Daniel qui le sait.
Ah, OK, Daniel.
Salut, moi, je suis le président pour la Matapédia.
OK.
Actuellement, on est à peu près 239 membres.
Comment ça se passe? C'est en milieu un peu rural. Mm-hmm. Les gens sont surtout à Amqui ou il y a des gens des villages qui échangent?
Nous, la MRC de la Matapédia, c'est 18 municipalités. On couvre quand même un grand territoire, là. C'est proche de 70 km en ligne, là, d'un point à l'autre, de l'est à l'ouest. Puis la majorité viennent d'Amqui, oui, mais quand même, on a de 14 sur les 18 municipalités là, qui ont des membres dans chaque municipalité presque. Là.
Daniel m'a donné beaucoup de détails sur son organisation. Mais contrairement à d'autres dirigeants, j'ai remarqué qu'il ne me parlait pas du tout de financement.
Imagine, vous aimeriez savoir du financement.
Oui, mais ça, il ne faut pas rêver en couleur. Nous autres, on a pris pour acquis que c'est les membres qu'il faut qu'ils fassent fonctionner la corderie.
Ouais, okay.
Si on se fie sur du financement puis qu'on veut toujours avoir un coordonnateur, on va faire comme les autres, on va fermer. Puis si on a un coordonnateur qui prend 80 % de son temps à se trouver son salaire pour la prochaine année, il faut se poser la question de l'utilité. Puis les employés, c'est bien beau, mais ça demande encore plus de travail, plus de sous, parce que la comptabilité pour les employés est remise au gouvernement. Ça complexifie tout. Puis je me dis, il faut avoir cette philosophie-là d'avoir des gens qui mettent des heures dans le corderie puis ça fonctionne.
Mm-hmm.
Puis avec un budget de 5 000 $ par année, on roule. Puis ça va marcher, là.
La réponse de Daniel me surprit. Mais ce qu'il affirmait avait du sens. Dans certains cas, ça donnait peut-être pas grand-chose d'engager un employé. C'était peut-être mieux de miser sur la mobilisation des membres, rémunérés en heures à corderie, pour tenir le bateau.
On a 3 moyens financiers. Un pont payant, un emballage chez Maxi, une journée de kiosque chez Métro. On se ramasse 5-6 000 $ on en a pour l'année. Puis quand on fait notre emballage chez Maxi, on prend nos membres pour faire ça.
Mon échange avec Daniel m'avait fait réfléchir. Je prenais conscience qu'il fallait garder l'esprit ouvert concernant le financement et la gestion des accorderies. Je restais tout de même sceptique, par contre. Une accorderie sans aucun employé, qui est tenue seulement par des accordeurs et le conseil d'administration, j'ai fait l'avocat du diable.
vous êtes un plus petit milieu aussi. J'imagine dans des grandes villes comme Québec, Montréal, là, ce serait peut-être plus dur de... que le CA prenne toute la charge de tous les gens qui sont là.
Bien plus dur.
D'avoir, hein, c'est ça.
Bien, si ils se partagent les tâches, il faut, faut que tu partages les tâches. C'est sûr que là, c'est pas tout du monde qui met 15-20 heures par semaine là-dedans. Là. C'est sûr que si moi, je l'avais pas mis dans, depuis les six dernières années,
tu pourrais plus,
je pense pas que ce serait encore... On serait fermé. On aurait fait comme les autres.
Malgré mes contre-arguments, je sentais que Daniel croyait encore à son modèle. Mais c'était seulement viable, j'ai l'impression, avec une implication exceptionnelle des membres, comme il pouvait offrir. J'admirais ça. Mais j'étais pas certain que ça pouvait tenir à long terme. J'ai donc approché France, la présidente de l'accorderie de Shawinigan, qui s'était impliquée presque toute sa vie dans le milieu communautaire.
Il faut qu'en même temps que tu aies une coordonnatrice ou un coordonnateur, il ne faut pas que ça repose juste sur lui. Il faut que tu continues à impliquer tes accordeurs par des comités, par parce que de toute façon, une personne ne peut pas tout faire. C'est ça. Parce que si tu ne fais pas ton implication d'accordeur, ben ça reste que ça peut tomber n'importe quand. Parce que nous, on a été des années où on n'avait pas de coordonnateur, coordonnatrice.
Ça fonctionnait plus ou moins.
Puis on l'a fait fonctionner pareil parce qu'il y avait des gens tout à fait passionnés. Là.
Ouais.
Mais tu sais, il faut que tu fasses l'équilibre vraiment entre les deux. Ouais. Si tu as un coordonnateur, coordonnatrice, il faut que tes membres restent impliqués. Puis si tes membres sont impliqués, il faut que tu trouves quelqu'un qui... Parce que tu sais, mon œil, ça n'a plus de bon sens. Là. L'équilibre.
Le temps a passé vite. Tellement que quand je suis sorti de ma discussion avec France, j'avais presque pas remarqué que la salle s'était remplie et que l'Assemblée générale allait commencer.
Bonjour. Bienvenue à Québec, à la Nef. Vous savez, il y a la... c'est beau, hein? C'est un bel environnement. On a tout fait ça hier, les dorures, tout ça.
L'Assemblée générale a duré plus de deux heures, mais on était chanceux, parce qu'on avait un animateur assez farceur, merci.
Alors, vous avez tous, je crois bien, l'ordre du jour entre les mains, version papier. Alors, on a eu le mot de bienvenue suivi...
Plusieurs sujets ont été abordés. Ça parlait de politique, de finances...
Donc, on va regarder dans, dans vos états financiers la première page qu'on va regarder...
...de règlement...
Le dernier point de l'article 6.3 se lirait...
C'était parfois assez technique, mais ça m'a donné l'occasion d'en apprendre plus sur les actions et la mission du réseau Accorderie.
Là, on n'a pas le temps pour faire le petit concours que je voulais faire. Quelle est la mission du réseau? Alors, je vous donne la réponse.
Travailler à la transformation sociale. Transformation.
Là, je vais t'aider. Le réseau Accorderie est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'agir pour la transformation sociale en accompagnant le développement des accorderies.
Intéressant. Et j'en ai su encore plus quand Nadia a pris la parole.
Présentation du rapport d'activité 2022-2023. Nadia!
On va t'asseoir, hein? Yeah! bonjour.
En l'écoutant, j'apprenais que le réseau était très actif en stimulant les échanges et l'entraide entre les différentes accorderies, notamment en organisant des événements et des rencontres thématiques plusieurs fois par année.
Les rencontres sont fort appréciées. On a vu beaucoup, beaucoup de nouveaux accordeurs. Ça a été vraiment porteur. Les gens aiment ça. Je pense que ça aide à tisser des liens avec des gens qui sont même hors notre accorderie. Donc,
l'aide du réseau était appréciée. Il donnait aussi des formations, des outils, même du soutien financier.
Le fonds d'appui, c'est vraiment pour soutenir les accorderies parce qu'on avait plusieurs accorderies en difficulté. Là. Et l'idée, c'était de pouvoir justement, tu sais, pas perdre des ressources quand il y en a une dans l'accorderie, bien, tu sais, pouvoir assurer un, deux, trois mois entre des projets pour que la personne reste en place, d'avoir une certaine stabilité dans les accorderies parce que justement, c'est ça qui est dommage. Là. Des fois, on est un employé, mais est obligé de partir parce qu'il y a deux mois sans financement dans le montage, etc. Et
le fonds servait donc à aider les accorderies qui risquaient de fermer. Mais l'existence de ce fonds-là faisait ressortir encore une fois l'enjeu du financement, qui était un souci pour le réseau lui-même.
Là, la situation du réseau, c'est qu'on a du financement jusqu'au 31 août. C'est ça, la phrase est finie. Fait que donc, il n'y a rien de signé au-delà. On est en communication avec les fondations, elles connaissent la situation, tout ça, le gouvernement aussi. À l'heure où on se parle, je ne suis pas inquiète, mais c'est ça, on a des démarches à faire, de représentation, là, ça suit son cours.
Ouf, quand j'ai entendu Nadia souligner ça, j'ai fait le saut. Elle ne semblait pas trop inquiète que les choses allaient se confirmer, mais ça me faisait voir que pour le réseau et les accorderies, rien n'était acquis. Par contre, comme je disais plus tôt, ils n'étaient pas les seuls dans cette situation-là. Et c'est pourquoi le réseau essayait de se solidariser avec d'autres organisations.
Le gros point, en fait, dans les partenariats l'année dernière qui était nouveau, c'était d'être membre du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome.
La présentation du rapport d'activité par Nadia a occupé beaucoup de temps à l'Assemblée. Le réseau était bien actif. Une grande partie de la réunion était passée et Patrice a repris le micro avec son énergie habituelle.
Vous avez faim, hein? Ça achève, ça achève. Conseil d'administration du réseau. On a reçu 2 mises en candidature de Longueuil.
Saïdée de l'accorderie de Longueuil que j'avais croisée à la fête d'Halloween avait posé sa candidature. Et ensuite, Edith a pris la parole pour solliciter un autre mandat comme administratrice.
Madame Calton-Rider.
La plus vieille, quasiment dans tous les sens du mot ici. Et ça fait depuis 2017 que je suis dans le conseil d'administration du réseau et on travaille énormément depuis des années au but ultime, avoir un financement récurrent pour toutes les accorderies. On était longtemps devant plusieurs portes et je pense maintenant on a comme le poignet de porte dans notre main et j'aimerais vraiment là, me rendre là et finir à ouvrir la porte et pas seulement rester devant la porte et rentrer pour tout le monde là, à tout jamais.
Merci beaucoup, Edith.
J'étais pas surpris. Le défi du financement était nommé encore. Mais on dirait que cette fois-ci, il y avait de l'espoir.
Il y a 2 accorderies qui ont été approchées pour un financement à la mission globale au Saquet. Et donc, c'est une première porte ouverte vers le financement à la mission globale. C'est d'abord de prouver qu'on est de l'Action communautaire autonome.
Bon appétit!
Il était passé midi depuis un temps, donc les gens n'ont pas tardé à se servir à manger. Quand je me suis approché, j'ai croisé Saïdé. On s'était pas reparlé depuis l'Halloween.
Hey, ça va? Très bien.
J'étais content de la recroiser. Tout en la félicitant pour son élection au CA du réseau, je lui ai demandé c'était quoi ses motivations.
J'ai plein d'idées pour le réseau.
Ouais.
J'aimerais les proposer. J'aimerais plus s'impliquer dans la logicielle.
OK.
Parce que je trouve que si on a un logiciel plus user-friendly, on peut attirer le monde plus et surtout si on peut avoir avec différentes langues.
C'est vrai. J'étais pas revenu sur ce point-là, mais la plateforme web de toutes les accorderies date de 2007. Et je sais que le réseau travaille fort à la mettre à jour. Ça aussi, c'était un défi important. Paul m'avait souvent d'ailleurs mentionné que pour les aînés en particulier, ça nuisait parfois aux échanges, tant pour les stimuler que pour les comptabiliser.
Ils échangeaient des points. Le problème, c'est
que... Pendant que Saïdé me parlait de ça, 2 invités spéciaux qui venaient tout juste d'arriver à l'Assemblée générale se sont approchés. C'était Serge Petitclerc et Claudine Tremblay, les anciens employés de la toute première accorderie fondée à Québec en 2002. Saïdé avait très hâte de leur parler.
Quelle idée, vraiment! Depuis que j'ai entendu l'idée, j'ai dit « Quelle idée géniale! »
Et j'ai
plein de questions. Comment vous avez eu cette idée-là?
En fait, nous, les initiateurs du projet, à l'époque, c'était la Fondation Saint-Roch puis la Caisse d'économie solidaire des Jardins. C'était pas encore attaché, là. Mais dans le fond, la Caisse d'économie voulait mettre sur pied un système de prêts solidaire. La Caisse d'économie, la Fondation travaillait sur un projet de groupe d'achat. Puis les deux réfléchissaient aussi à l'échange de services.
Sans tout vous raconter l'histoire des accorderies, j'apprenais en écoutant Serge que la première d'entre elles était née des efforts communs de plusieurs citoyens et d'acteurs sociaux importants. Et au départ, l'idée n'était pas uniquement d'inciter les gens à s'entraider en échangeant des services. L'objectif était de les regrouper dans le but de faire des achats communs. Un système de microcrédit était également en place. Pendant que Serge et Claudine racontaient tout ça, on voyait que Saïdé était très enthousiaste face aux accorderies.
l'échange des orques, c'est quelque chose de génial. Quand, en fait, moi, mes études, c'est sur la finance internationale.
OK.
Une grande question qu'on pose souvent, comment on peut réduire la pauvreté.
Oui, oui, oui.
Et ça, c'est génial quand on a des mêmes heures, mêmes valeurs pour chaque
heure.
Oui, oui, oui,
chacun. Une heure égale une heure.
Oui, c'est quelque chose de génial, vraiment.
Bien, c'est ça qui fait, je pense, que ça a décollé.
En écoutant Saïdé parler de ce qu'elle appréciait des accorderies, j'ai pris conscience que depuis mon arrivée à l'Assemblée, j'en avais appris beaucoup sur le financement, mais moins sur les retombées générales des accorderies. Fallait que je corrige ça.
Salut Serge, c'est Jean-François,
c'est
ça
juste
va?
C'est ce que j'ai supposé.
Cool, cool.
J'ai donc demandé à Serge et Claudine s'ils pouvaient m'accorder une entrevue sur ce sujet-là. J'étais certain qu'ils auraient plein d'exemples à me partager. On avait planifié de faire ça dans les bureaux de Nadia qui étaient plus silencieux. Mais avant de discuter avec eux, j'avais invité Saïdé à m'accompagner là-bas pour qu'elle puisse m'expliquer comment l'accorderie l'avait aidée en tant que personne immigrante.
À nouveau arrivant, le premier problème, c'est vraiment d'avoir son réseau ici. Quand un bébé naît, au moment de la naissance, il connaît au moins une centaine de personnes autour de lui, les parents, les frères, sœurs, oncles, aunts, les voisins, tout ça. Mais quand on arrive dans un pays, on n'est même pas un bébé. Moi, en tout cas, quand moi je suis arrivée, je connaissais personne, personne vraiment ici. Oui, pour les nouveaux immigrants, alors c'est une solution miraculeuse. On peut dire que la majorité de mes contacts avec les Québécois sont par l'accorderie.
OK, c'est la preuve, ça marche.
Sauf mes voisins, les autres sont vraiment par l'accorderie que je connais. Okay.
Saïdé m'a parlé pendant 15 minutes. Et ce que l'accorderie lui a apporté, elle essaie de le redonner aux autres.
Cette année, il y avait une famille de la France qui venait au Québec. Ils cherchaient un logement pour rester pour une semaine. Alors, ça me fait un grand plaisir de les connaître parce que moi aussi, j'étais en France. Et j'aime échanger avec les différentes cultures. Et je les ai hébergés chez moi pendant une semaine. On est devenus des amis.
Okay.
Oui, mais... C'est ça, c'est ce qui est très beau avec l'accorderie, c'est pas seulement l'échange, parce que quand on paye les services, les gens, ils disent au revoir, on fait les liens forts par amitié. Et les gens qui donnent ce service-là, ils font avec passion.
Après avoir un peu trop oublié mon estomac, je suis repassé au buffet pour me prendre quelques morceaux de nourriture. J'ai avalé le tout rapidement et j'ai ensuite été chercher Claudine et Serge. Dès qu'on est entré dans la section bureau du bâtiment, Serge était déjà en mode souvenir.
Mais là, je ne sais
plus, Serge, comment
c'était.
C'était le bureau à...
Ouais, ça va être ici.
À Marguerite.
Je suis comme plus capable, parce que Marguerite était plus là.
Non, ça, le bureau
de
Marguerite était là.
Claudine et Serge ne semblaient pas avoir les mêmes souvenirs du bureau. Mais en les voyant aller, comme qu'on dit, j'ai fait le saut, parce que j'ai pris conscience de quelque chose.
C'était-tu les bureaux originaux de l'accorderie ici? Parce que je voulais dire, ah, c'était pas de même avant.
Non, ça a beaucoup changé.
Okay.
Tout ça ici, tout le derrière de l'église a changé.
Ah, mais c'était dans le même bâtisse, là,
quand
même.
Oui,
c'est dans l'église. Okay. Ben, tout a travaillé ailleurs avant. Non, c'était ici quand l'accorderie a commencé.
Wow! En entrant dans l'église ce matin-là, j'avais aucune idée que c'était le lieu où les accorderies étaient nées.
Je ne sais pas si tu veux le mettre.
Quelques minutes plus tard, j'ai été voir David pour installer un micro de puce. C'était nécessaire, parce qu'en retournant dans la grande salle me chercher un café, j'avais croisé Véronica Rioux, une femme qui avait travaillé pendant de longues années au réseau accorderie. Je lui ai demandé si elle pouvait se joindre à nous et je ne l'ai pas regretté.
Bien, c'est ça. Comment ça a commencé, cette idée-là, là, de partir?
J'ai amorcé l'entrevue et Serge et Claudine m'ont raconté à nouveau les débuts de l'accorderie. Ça ressemblait à ce qu'ils avaient communiqué à Saïdé plus tôt. Mais à un moment donné, Serge a commencé à me parler des premiers impacts qu'il a perçus en tant qu'habitant du quartier Saint-Roch.
Quand tu es installé dans un quartier, mettons, les quartiers centraux, tu sais, c'est une population peut-être de 20, 25, 30 000 personnes, puis là, tu as 600-700 membres. Ouais. Ça commence à faire du monde, là. Donc, moi, des membres d'accorderie, des accordeurs, j'en rencontrais à tous les jours. On allait à l'épicerie, puis tout ça. Puis là, tu développes des liens, puis là, tu donnes des livres, puis, puis tu développes aussi des relations hors accorderie, là. Ouais. Ce qui fait ils se développent des amitiés.
Des amitiés qui...
Qui reste là. Puis on sentait comme ça solidifiait la vie de quartier, parce que quand tu dis ici, c'est Saint-Roch, Saint-Sauveur, j'imagine la majorité des membres étaient dans le coin ici.
C'était la plus grosse concentration. C'était Saint-Sauveur et Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, mettons. Okay.
Je connaissais bien ces secteurs-là, notamment à cause de mon court séjour à Québec. Et j'étais curieux d'avoir plus d'informations sur l'impact des accorderies sur les personnes à faible revenu.
De mon souvenir, c'était la moitié des accordeurs qui avaient un revenu familial, le ménage au complet de 20 000 et moins. Mm-hmm. Donc, on sentait que ça répondait à un besoin très réel. Quand quelqu'un arrivait, puis écoute, j'ai pas le choix, le propriétaire reprend mon logement, je vais déménager dans 3 mois... Qu'est-ce que je fais? Ben, c'était précieux, tu sais, de dire qu'il pouvait avoir du coup de main, un coup de main d'autres accordeurs, toutes sortes de services qui n'auraient jamais pu se payer dans le système classique, là.
Ouais, je me souviens de... C'était Linda, on était à la fin du mois, tu sais, puis elle s'est fait couper les cheveux. Puis là, son ami, elle m'a dit, comment t'as fait pour te payer une coupe de cheveux? Pas payé!
C'était convaincant d'écouter Serge, Claudine et Véronica parce que je voyais bien que l'accorderie avait un impact positif sur les personnes non fortunées. Mais les retombées n'étaient pas uniquement matérielles.
Tu sais, moi, je me souviens d'une, là, c'est pas une femme qui échangeait individuellement beaucoup. Non. Elle faisait beaucoup l'accueil. Fait qu'elle, ça la faisait sortir, ça la faisait, tu sais, puis... À un moment donné, tu vois les gens qui s'épanouissent tout d'un coup aussi, tu sais, ils rentrent ici, comme, là, tout d'un coup, avec les mois et...
Ça enlève, là.
Non, mais c'est vrai, par exemple, je donne une drôle d'exemple, mais c'est vrai que les gens, ils reprenaient sur eux.
Après que Claudine m'ait expliqué ça, je lui ai parlé de comment j'avais découvert qu'un des impacts majeurs des accorderies sur les personnes aînées était que certains d'entre eux avaient repris vie quand on leur avait fait prendre conscience qu'ils pouvaient donner encore.
Pour les aînés, autant que pour des personnes qui sont à l'aide sociale ou qui avaient un handicap, une maladie, une problématique en santé mentale, c'est un peu dans la notion de « ben oui, mais je peux quand même servir à quelque chose, bordel! » C'est pas parce que je travaille pas temps plein, 35-40 heures semaine, que je peux pas servir à la société. Donc ça, il y avait une très, très grande valorisation, puis ça nous a été dit plein de fois, notamment par des personnes aînées, tu sais, qui disaient « waouh, ici, je me sens... » accepté, puis utile, puis de faire une différence dans ma communauté.
Puis qui côtoyait des jeunes.
Oui, intergénérationnel, certain.
Pendant plusieurs minutes, les trois ont continué à me fournir des exemples concrets des bienfaits de l'accorderie. Et à un moment donné, Véronica m'a raconté une anecdote qui révélait un élément très important.
J'arrive dans une activité de l'accorderie, un souper, mettons, ou tout ça. Puis, il y a personne qui me demande, toi, tu fais quoi dans la vie? Non. Toi, c'est quoi que t'offres comme service? On n'est pas catégorisé comme dans la société habituelle.
Les gens autour des tables, effectivement, tu savais pas. Tu savais pas que la personne en face, c'était quelqu'un qui était sans emploi, retraité, travailleur autonome ou peu importe.
Ça, c'était majeur comme déclaration. Depuis le début du balado, je vous parle de l'impact des accorderies sur les aînés, sur les personnes immigrantes, sur les individus à faible revenu. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les accorderies avaient pour effet de libérer les gens de ces étiquettes-là.
Pour la société, hey!
Je suis sorti du bureau de Nadia avec le sentiment du devoir accompli. J'étais certain que ceux qui doutent de la bonne idée de financer les accorderies avaient assez de matière pour réfléchir.
Léa, elle a pas parlé beaucoup, mais c'est elle qui a tout fait le montage de toute la vidéo. Là. C'est un gros travail de casse-tête. Moi, je mourrais faire ça. Fait que... rien de moins.
C'est vrai. En revenant dans la grande salle, je me suis rappelé que la fin de l'Assemblée générale était consacrée à la projection d'un court-métrage dans lequel on entendait des témoignages positifs à propos des accorderies. J'avais bien choisi ma journée d'enregistrement.
C'est un réseau qui permet de redonner l'humanisme aux échanges
entre humains, entre êtres humains.
C'est ça qui est beau avec la corderie parce qu'on découvre les gens souvent avec les mêmes valeurs.
Tu le fais parce que tu oui, tu as des heures pour le faire, c'est sûr, puis ces heures-là, tu vas les utiliser, mais c'est aussi que tu crois à une certaine façon de fonctionner.
J'étais ému de voir le film parce que j'entendais des échos de ce que tous les accordeurs et employés que j'avais rencontrés m'avait dit. J'ai donc quitté Québec ou le quartier Saint-Roch, mon ancien quartier, plein d'énergie. Et c'est drôle, mais cette assemblée-là et ce que j'avais appris sur les accorderies me consolaient du court épisode de ma vie moins agréable que j'avais passé à Québec. Nos sentiments ont parfois une mécanique étrange. Parce que maintenant que je savais qu'il existait un réseau d'entraide à l'époque, pas loin de chez nous, je me sentais mieux. Tranquillement, les immeubles résidentiels du boulevard Charest cédaient la place à des concessionnaires d'automobiles et l'artère redevenait une autoroute. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'intuition de demander à David comment il avait apprécié sa journée.
Ça me fascine, en fait, de voir autant de gens qui se mobilisent pour aider des humains. Je trouve ça fou combien qu'il y en a. T'sais. Pourquoi qu'on n'est pas conscient de l'effet de tous ces organismes communautaires-là, puis ils l'ont nommé tantôt, combien de vols, combien de gens qui sont pas dans la rue grâce à la corderie, combien de crimes qui ont pas été faits grâce à la corderie, tu sais. Fait que c'est ça qui me touche, de voir tous ces gens-là mobilisés, vouloir aider des humains qui aident des humains, tu sais. Je trouve ça grandiose, en fait. Puis souvent, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai rapporté, c'est que les humains qui se sont fait aider puis qui s'en sont sortis, aident après le monde. Ouais, c'est beau. L'humain, ça... Voir des humains comme ça, ça donne de l'espoir, en fait, à l'humanité.
Madame Chantal Rouleau.
Quelques mois après l'Assemblée générale, en regardant mon fil d'actualité Facebook, je suis tombé sur une diffusion live d'une conférence de presse de Chantal Rouleau, la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Elle avait une annonce majeure à faire.
Bonjour, quel immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette excellente nouvelle. C'est vraiment quelque chose de magnifique qui se passe aujourd'hui. Honnêtement, je dois vous dire que j'ai eu un coup de cœur. En encourageant nos concitoyens à s'entraider à travers l'échange de services, que les deux accorderies aujourd'hui s'alignent parfaitement avec les objectifs du gouvernement. Les accorderies améliorent concrètement la qualité de vie de leurs membres et des communautés au quotidien. Alors, j'annonce aujourd'hui que chaque organisme qu'on nomme aujourd'hui recevra un financement de plus de 240 000 $ pour une période de 3 ans. C'est près de 500 000 $ qui est accordé aux deux accorderies. Je vous remercie infiniment.
Pendant qu'elle faisait son discours, j'avais le sourire aux lèvres. Si je me trompe pas, pour la première fois en 22 ans, le gouvernement confirmait un financement à la mission pour deux accorderies. Edith, la présidente du réseau, en était très émue.
Il me manque les mots pour exprimer ma joie, de cette excellente nouvelle. Mais quand je regarde le monde, tout le monde me connaît, il me croira pas. Pour ça... Merci beaucoup, Madame Rouleau. Merci beaucoup, tout le monde.
Merci, Madame Catherine Rinald. Pour terminer, j'inviterai Madame Marie-France Turcotte à venir prendre la parole.
Les accorderies, c'est une innovation sociale bien québécoise. Il y en a en Europe, mais c'est québécois. Notre impact, elle se compte pas par des emplois créés, par des retombées économiques, par un pourcentage de PIB. Mais il se compte en services rendus, en liens sociaux tissés et en vie changée. Nous redonnons un sens au mot collectivité à une époque où l'individualisme est roi. Nous construisons des ponts entre les générations, entre les plus démunis et les plus fortunés. Nous construisons chaque jour un Québec plus juste et plus égalitaire. Nous en sommes convaincus depuis longtemps et nous en sommes très fiers. Merci beaucoup.
J'étais fier pour les accorderies. Et le discours de Marie-France m'a rappelé quelque chose. Des accorderies, il y en avait aussi en France.
Devinette, quelle différence y a-t-il entre un kilo de plume et un kilo de plomb? Eh oui, il n'y en a pas. Et quelle différence y a-t-il entre une heure de ménage et une heure de cuisine? Aucune, parce qu'une heure, c'est une heure. Et c'est une monnaie d'échange.
En écoutant cette vidéo, on n'est pas surpris. On voit que les accorderies françaises sont un miroir des accorderies québécoises. En fait, il y a 31 accorderies françaises et plus de 13 000 accordeurs là-bas. Si vous voulez donc garnir la liste des retombées sociales de ce que les accorderies ont fait depuis leur création en 2002, ajoutez que la petite idée a contribué à stimuler l'entraide sur un autre continent.
Place au spectacle.
Pas longtemps après la conférence de presse, Paul Morin m'avait invité au Baobab pour assister à une pièce de théâtre conçue pour communiquer les résultats de sa recherche. J'appréciais beaucoup mon après-midi, parce que certains des comédiens étaient des personnes comme Isabelle que j'avais interviewée pour le balado.
Elle me parle de sa jeunesse, de sa vie de mariée pas toujours facile, puis de comment elle s'en est sortie.
Le contenu de la pièce me rappelait aussi des souvenirs. Une comédienne avait aussi énormément de talent.
J'ai entendu un monsieur qui racontait que l'hiver dernier, il avait subi une opération et avait été incapable de pelleter sa galerie et le chemin qui mène à sa maison. C'est un accordeur qu'il avait fait pour lui.
C'était touchant de voir les accordeurs, Paul et les employés, tous réunis ensemble. Et en plus de tout ça, un auteur-compositeur-interprète impliqué dans la rédaction de la pièce, Yann Fournier, a créé une chanson en lien avec la thématique de la recherche de Paul. Le maintien à domicile des personnes aînées. Ça bouclait bien la boucle, même s'il y a encore beaucoup à dire sur les accorderies.
C'est pas vraiment le château de Versailles, mon petit 3,5 en pagaille. Mais pour moi, c'est plus qu'un palais. C'est mon royaume, c'est mon chalet.
C'est pas ailleurs, c'est pas nulle part, pas n'importe où.
C'est mon chez nous.